Donc bonjour à tous, à tous les jeunes et tous les adultes restants. Les enfants, je leur dirai bonjour tout à l'heure. Je suis content, moi, d'être ici et puis de pouvoir glorifier Dieu avec plein de frères et sœurs d'églises différentes, parce que là, je vois au moins 3 églises différentes, 4 églises différentes même. Donc il y a plusieurs églises qui sont réunies et c'est ça. On a célébré, on a pris le repas du Seigneur et c'est par ce sacrifice que Jésus s'est racheté un peuple saint, son église. Et puis son église est là pour le glorifier. Donc c'est bien. Et ce matin, je voudrais vous parler de travail pour vous remettre un peu dans le bain pour ceux qui vont bientôt reprendre. Et quand j'étais moi au travail, j'étais dans une entreprise informatique avant d'être pasteur à plein temps. Et on me confiait dans ce travail des missions. Alors je ne sais pas si vous, dans votre travail, on vous confie des missions, mais aujourd'hui on confie des missions à beaucoup de personnes. Et en fait, les missions, elles ont tous un même schéma. Le schéma d'une mission, il est assez simple. Il y a tout ce qui est avant la mission. Avant la mission, il y a un chef qui nous dit, on va faire cette mission. C'est ce chef-là qui a l'autorité pour engager l'entreprise dans une mission. Et c'est pas le collaborateur lambda qui va pouvoir dire, tiens, moi, je vais faire cette mission. Et une fois que le chef a ouvert la mission, il envoie un ordre de mission pour affecter une ou des personnes sur la mission. Et en général, il y affecte des personnes qui ont les compétences requises. Donc il faut tout ça pour que les personnes choisies entrent dans la mission. Puis donc ça, c'était avant la mission. Puis après, il y a pendant la mission. Pendant la mission, il y a des tâches qui sont affectées et on doit accomplir ces tâches. Il y a des résultats à produire. Parfois aussi, le collaborateur rencontre des difficultés, des épreuves, et il aimerait bien alors que le chef intervienne en sa faveur. Ce n'est pas toujours le cas. Si la mission dure plusieurs mois ou plusieurs années, les collaborateurs aimeraient bien aussi être encouragés durant la mission pour tenir jusqu'au bout. Là, c'est pareil, ce n'est pas toujours le cas. On n'est pas toujours encouragé, en tout cas dans le travail. Mais voilà, tout ça, c'est ce qu'on retrouve durant une mission. Et durant la mission, les collaborateurs sont appelés à persévérer pour aller jusqu'à terminer la mission. Et puis un jour, la mission se termine. La mission prend fin. En général, les collaborateurs, ils aimeraient bien que la mission se termine avant que ce que le chef a décidé. Mais dans tous les cas, on doit attendre la fin et on doit aller jusqu'au bout. Et le repos, c'est après la mission et pas durant la mission. Donc, en général, hein. Donc, à quelques différences près, l'Église, et quand je dis l'Église, je parle des membres du corps de Christ, les disciples de Jésus-Christ, les personnes, l'Église est en mission, elle aussi. Elle doit aussi entrer dans la mission. Elle doit aussi persévérer dans la mission. Et elle doit aussi terminer la mission avant de se reposer. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui ensemble en prenant la 6e lettre parmi les 7 lettres que Jésus écrit et envoie à 7 églises. Et on trouve ces lettres dans l'Apocalypse. On a déjà ouvert pas mal de fois notre Bible ce matin dans l'Apocalypse. Donc vous savez tous maintenant où se trouve l'Apocalypse, à la toute fin de la Bible. Et si vous voulez suivre directement dans le texte, j'ai vu qu'il y avait des Bibles là-bas à l'entrée. Donc on va dans le dernier livre, le livre de l'Apocalypse, on trouve ces 7 lettres dans les chapitres 2 et 3, et la nôtre, la 6e, se trouve dans le 3e chapitre, les versets 7 à 13, et c'est une lettre que Jésus écrit et adresse à l'église de Philadelphie. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13, et voici ce qu'on lit. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance, tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas, ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors les lettres de Jésus aux sept églises, c'est notre série de l'été actuellement à notre église de Béligny. Et à chaque fois, on y découvre une particularité de l'église. Et ce matin, Jean nous a rappelé que l'église est la fiancée de Dieu et que cette église doit être belle pour Dieu. Et qu'il purifie son église à travers sa parole, il nous a dit. Et la parole de Dieu, c'est vrai, c'est comme un miroir. C'est là-dedans où en tout cas, plutôt les femmes, peut-être, voient qu'il y a des rides, etc., puis essayent de les masquer dans le vrai miroir. Mais pour l'église, c'est là-dedans que l'église voit si elle a des rides et ce qu'elle doit éventuellement corriger. Et dans les lettres aux sept églises, justement, on a commencé à découvrir des caractéristiques de l'église. Avec la lettre à l'église d'Éphèse, on découvre que l'église doit être aimante. Avec la lettre de l'église de Smyrne, on découvre que l'église doit être endurante, même à travers la souffrance. Avec la troisième lettre à l'église de Pergame, on découvre que l'église doit être droite dans ses doctrines. Avec la lettre à l'église de Thyatire, on découvre que l'église doit être pure par rapport au péché. Et avec la lettre de l'église à l'église de Sardes, on découvre que l'église doit être vivante. Et non pas morte. Et avec cette sixième lettre à l'église de Philadelphie, on découvre que l'église doit être en mission. Et comme j'ai essayé de l'illustrer tout à l'heure dans l'introduction, il y a un avant la mission dans laquelle l'église est invitée à entrer. Il y a un pendant la mission qui invite l'église à persévérer dans la mission. Et il y a une fin à la mission qui invite l'église à terminer la mission. Et ce sont les trois parties de cette lettre que je vous invite à explorer ensemble ce matin avec moi. Alors premièrement, l'avant-mission qui nous invite à entrer dans la mission. Et tout à l'heure, je disais que pour entrer dans une mission, il fallait un chef de mission, un ordre de mission et des compétences pour la mission. Eh bien, on retrouve tout ça dans les versets 7 à 8. Nous, l'Église, on a un chef de mission. Notre chef, le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Et regardez là au verset 7 comment il se présente, ce chef. Il se présente comme le Saint. Jésus est de nature sainte, sans péché, séparé du péché. Et l'Église de Philadelphie a pu lire ou entendre peut-être les paroles de l'apôtre Pierre qui disait, en parlant de l'Église et en parlant à l'Église, en 1 Pierre 1, verset 15, « Tout comme celui qui vous a appelé et saint, soyez saint dans tout votre comportement. » Alors, je ne sais pas quelle réaction vous avez quand votre chef au boulot vous envoie un mail en rappelant précisément qui il est pour vous et en laissant sous-entendre que cela implique un comportement spécial de votre part. Mais en général, on est plutôt inquiet quand on reçoit un tel mail. Ouh là là! Qu'est-ce qu'il va me dire à la suite de ce mail? Quel reproche a-t-il contre moi? On a peur de la menace. Et ça, c'était peut-être la première réaction qu'avait l'église de Philadelphie quand elle a entendu la présentation de Jésus. Le Saint se présente à cette église et lui écrit une lettre. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Mais cette réaction négative, si on veut, va vite se changer en réaction positive, car le Saint leur dira ensuite au verset 8 « Je connais ta conduite ». Et j'ai rien à te reprocher. C'est une des deux lettres, des sept lettres que Jésus écrit, où l'Église ici, Jésus ne fait aucun reproche à cette Église. Jésus est saint et l'Église de Philadelphie semble être saine et Jésus ne lui fait pas de reproche. Donc en fait, c'est un bel encouragement. Le saint écrit à son Église qui semble être saine aussi. Et on peut s'interroger, nous, sur quelle serait notre réaction si le saint écrivez une lettre à nos églises respectives. Est-ce qu'on verrait ça comme une menace parce qu'on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas très saines dans nos églises? ou est-ce qu'on verrait ça comme un encouragement pour notre Église? Jésus se présente comme le saint et il se présente aussi comme le véritable, celui qui est authentique. Certains juifs remettaient en cause l'authenticité de Jésus, sa qualité à être le Messie tant attendu par le peuple juif. Et pourtant, on va le voir dans la suite du texte, des juifs vont reconnaître finalement que oui, Jésus est le véritable Messie, le Seigneur attendu, le Seigneur du monde, qui aime autant les juifs que les non-juifs. Et aujourd'hui, son authenticité à Jésus, elle est encore contestée. Est-il réellement Dieu? Est-il réellement Fils de Dieu? Est-il réellement Seigneur du monde? Est-ce qu'il est réellement le seul chemin, la seule vérité, la seule vie? En tout cas, pour cette église de Philadelphie, comme pour nous aujourd'hui, Jésus est le véritable. Il est l'authentique, ce n'est pas une contrefaçon. Et parfois, vous recevez des mails ou même des courriers qui ressemblent à s'y méprendre à un courrier officiel du gouvernement français. Mais en fait, ça n'en est pas un. Alors qu'est-ce que vous faites quand vous recevez ce genre de mail ou de courrier? On supprime, on déchire le papier et on le met à la poubelle. On ne fait surtout pas ce qu'il nous demande de faire. En général, c'est de donner de l'argent. Donc on ne fait surtout pas ce qu'il nous demande de faire parce qu'on sait que ce n'est pas authentique. Mais ici, cette lettre est écrite, elle est officielle parce qu'elle est écrite par le véritable, l'authentique. L'authentique chef de l'Église. Donc on ne met pas cette lettre à la poubelle. On va la lire attentivement et on va faire ce qu'elle nous dit de faire, ce qu'elle nous invite à faire. Mais parfois aussi, on reçoit une lettre de notre chef, on sait que c'est vraiment lui qui l'a écrite, qu'il est authentique, elle est authentique cette lettre, mais on n'y porte pas attention, on ne fait pas attention à ce qu'elle dit, parce qu'en fait on ne reconnaît pas la légitimité du chef. Ouais, c'est mon N+1, je sais, mais il n'a pas les compétences pour ça. Il n'est pas sérieux, il n'arrive jamais à l'heure aux réunions, il n'arrive jamais à l'heure même, il ne montre jamais le bon exemple, il part toujours avant tout le monde, il n'est jamais prêt pour faire une réunion. Bref, il m'écrit une lettre, mais moi je ne le reconnais pas comme mon chef et je ne vais pas lui obéir, je ne vais pas faire ce qu'il me demande là, je ne lui reconnais pas cette légitimité. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais donc ici Jésus, il se présente comme celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Ça, c'est une image qui est empruntée au prophète Ésaïe, au chapitre 22, à partir du verset 20, où on découvre que les clés du royaume de David sont confiées à un certain Éliakim. Avant Éliakim, il y avait un certain Shebna qui avait les clés, mais il a mal exercé son pouvoir. Alors Éliakim le remplace et l'Éternel confie à Éliakim les clés du royaume de David pour montrer à tout le monde que maintenant c'est Éliakim qui a le droit de régner et c'est Éliakim qui a autorité sur le royaume de David. C'est Éliakim qui est le chef légitime du royaume. Donc de même là, c'est Jésus. Ça nous montre que Jésus est le chef légitime de l'Église et aussi du monde entier. Jésus le dira lui-même, « Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné. » Et puisque Jésus a les clés de David, Jésus est le seul à avoir l'autorité souveraine sur son Église, sur le monde, sur le cœur des hommes. Et c'est important de s'en souvenir. Il est le seul à pouvoir initier une mission pour son Église. L'Église ne peut pas dire, « Tiens, moi je vais aller faire cette mission pour Jésus-Christ. » Si Jésus n'a pas ouvert cette mission, l'Église va juste aller dans une porte fermée qu'elle ne pourra pas elle-même ouvrir. C'est que Jésus qui pourra ouvrir cette porte. Et c'est comme au boulot. Si vous allez voir votre patron en lui disant « Tiens, moi je pense qu'on devrait faire cette mission », si lui il débloque pas la chose, vous ne pourrez pas faire cette mission. Donc c'est pareil pour l'Église. Jésus a toute légitimité sur son Église. Il est notre chef de mission. Et il a ouvert une mission dans laquelle il nous invite à entrer à travers justement un ordre de mission qu'on découvre au verset 8. « Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. » Ça, c'est notre ordre de mission et vous allez comprendre pourquoi je parle de mission depuis tout à l'heure et pourquoi pour moi cette sixième lettre peut être considérée comme une lettre qui parle de la mission, qui parle sur la mission. Cette porte-là que Jésus ouvre pour l'église de Philadelphie, c'est la porte de la mission. C'est la porte pour répandre l'évangile. Dans le livre des Actes, au chapitre 14, verset 27, on lit que « À leur arrivée, Paul et Barnabas réunirent l'église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ils exposèrent en particulier comment le Seigneur avait ouvert aux non-juifs la porte de la foi. » Aux Corinthiens, Paul écrit « Cependant, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace. » Dans sa deuxième lettre, il dira « Je suis allé à Troas pour y annoncer l'évangile de Christ. J'y ai trouvé, grâce au Seigneur, des portes largement ouvertes à mon activité. » Et aux Colossiens, il dira « Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ. » Le Seigneur Jésus, celui qui détient les clés du royaume, ouvre des portes pour annoncer l'évangile dans le monde, mais aussi dans les âmes, dans nos cœurs. Il ouvre nos cœurs pour qu'on puisse, il ouvre des cœurs pour qu'on puisse leur annoncer l'évangile. Et souvent, parmi les chrétiens, on utilise cette expression que Dieu ouvre ou ferme des portes pour, j'allais dire, des projets personnels. À la recherche d'un emploi, par exemple, on va prier pour que Dieu ouvre ou ferme des portes pour nous conduire vers tel ou tel travail qui serait le bon travail pour nous, celui qui va me plaire le plus, celui qui est fait pour moi, etc. Mais du coup, on oublie que quand on parle de portes, enfin quand Dieu en tout cas parle de portes dans sa parole, ce sont des portes pour la mission, des portes pour annoncer l'évangile. Alors peut-être que parfois Dieu ouvrira une porte pour que vous ayez un travail spécifique, mais aussi pour que vous y annonciez l'évangile dans ce travail. Et si Jésus a ouvert une porte pour annoncer l'évangile, personne ne peut fermer cette porte. Et ça, c'est une conviction qui devrait nous encourager à entrer dans la mission, dans les portes que Dieu nous a ouvertes. On a cet ordre de mission. Et ici, Jésus donne à Philadelphie cet ordre de mission. Il ouvre une porte, alors on va dire, il ouvre des occasions, il met devant eux des occasions pour le servir en témoignant et en annonçant l'évangile. De quelle manière? On ne sait pas trop, hein. Quelles sont les occasions ouvertes pour cette église? Peut-être que le Seigneur fait référence aux fondateurs de Philadelphie, de ceux qui ont fondé la ville de Philadelphie, qui voulaient faire de la ville de Philadelphie un centre culturel, enfin un centre de la culture et de la langue grecque. Et ils voulaient, à partir de Philadelphie, ils voulaient faire de cette ville un poste missionnaire d'où la langue et la culture grecque allaient se répandre à toutes les autres régions. Parce que Philadelphie, si j'avais mis une carte, on aurait vu que Philadelphie, c'est à la croisée de trois régions, la Lydie, la Phrygie, et puis une autre que j'ai oubliée. Enfin, il y a trois régions, et Philadelphie, c'est au milieu. Et donc, à partir de là, cette ville pouvait répandre la culture grecque et la langue grecque dans toutes ces trois régions. Et ça a réussi, parce qu'en l'an 19 avant Jésus-Christ, toute la Lydie, la région de Lydie, ne parlait plus que le grec. On ne parlait plus lydien, mais on parlait le grec. Donc, ils ont réussi. Donc, peut-être que Jésus est en train de leur dire à cette ville, bah, allez-y, répandez-vous aussi l'évangile. Vous êtes au milieu de ces trois régions. Tout le monde passe par là. Répandez l'évangile aussi pour que l'évangile soit répandu dans ces trois régions. Ou alors, peut-être qu'il fait référence au surnom qu'avait cette ville de Philadelphie à l'époque où la lettre est rédigée. On surnommait Philadelphie la porte de l'Orient, à cause justement de sa situation géographique au carrefour de ces trois régions. C'était même aussi sur la route de la poste impériale à l'époque, donc il y avait beaucoup de choses qui passaient par là. Et peut-être que Jésus est en train de leur dire, aux chrétiens de la porte de l'Orient, que leur situation géographique leur fournit une excellente occasion de répandre l'Évangile. En tout cas, la porte est ouverte et ils sont invités à entrer dans la mission. Alors on peut s'interroger, et nous, quelles sont les portes que le Seigneur Jésus a ouvertes pour ces églises locales ici sur la région de Villefranche? Je me suis interrogé. Moi, je me suis dit, la devise de Villefranche, c'est espérance. La ville de Villefranche, municipalité, a comme devise espérance. Je me suis dit, est-ce que c'est une porte que le Seigneur nous ouvre en nous disant, mais allez-y, parlez-leur de l'espérance qu'ils peuvent avoir en moi, grâce à moi. Je me suis même dit, comme c'était la porte de l'Orient, Philadelphie, je me suis dit, mince, nous, on a un des plus grands péages de France. Il y a plein de milliers de voitures qui passent par là. Si on arrivait à parler de l'évangile à toutes ces voitures-là, waouh, on répandrait l'évangile partout. Enfin, voilà, quelles sont les portes qui sont ouvertes pour nos églises pour répandre l'évangile. Donc, prions que Jésus ouvre des portes à nos églises locales pour que nous puissions annoncer l'évangile. Prions que Jésus ouvre aussi des portes de cœur encore verrouillées, parfois même dans notre entourage proche. Prions aussi pour que nous sachions du coup entrer et saisir ces portes ouvertes que Dieu nous ouvre, que Dieu nous met devant nous, pour qu'on sache aussi les discerner. Le chef de la mission a un ordre de mission, il le dit aussi dans Matthieu 28, hein, « Faites des disciples parmi tous les peuples » et il ouvre devant nous la porte de la mission. Entrons-y, participons-y. Et là, quand on dit ça, peut-être que vous vous dites « Ouais, non, la mission, annoncer l'évangile, c'est pas pour moi. Moi, j'ai pas le don, j'ai pas les compétences. » Bon, alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que si le chef donne un ordre de mission, on obéit au chef. Et puis, il faut le dire aussi, on n'a pas besoin de compétences particulières pour la mission. On a des compétences, en fait. Jésus dit « Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. » Voilà ce qui est nécessaire pour participer à la mission. Philadelphie avait une population, la ville de Philadelphie avait une population peu nombreuse, parce qu'il y avait beaucoup de séismes dans la région, surtout dans cette ville. Et donc peut-être qu'il y avait aussi peu de monde dans l'église de Philadelphie. Peut-être qu'elle n'avait pas beaucoup de moyens, que les membres étaient majoritairement pauvres, issus de classes inférieures de la société. Et Philadelphie était consciente de sa faiblesse, le Seigneur le sait aussi. Mais être conscient de notre faiblesse permet souvent de nous confier totalement à Dieu et de dépendre totalement de lui. Et alors de pouvoir dire comme Paul, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ils ont peu de puissance, mais ils obéissent à la parole. Ils sont fidèles pour la mettre en pratique. Ils n'ont pas honte du nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas honte de l'Évangile, même s'ils ont certainement été confrontés à de l'hostilité. Dans l'histoire de l'église de la ville de Philadelphie, assez rapidement, il y a eu des martyrs qui sont morts à cause du nom de Jésus-Christ. Et même jusqu'à la mort, ils n'ont pas renié le nom de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a ces trois choses-là, ces compétences-là ? Ben, la puissance de Dieu agit à travers son église. Des personnes sont rachetées et des vies sont transformées par l'annonce de l'évangile, par la proclamation de l'évangile de Jésus. Et avec les moyens de communication modernes qu'on a aujourd'hui, on a accès virtuellement à plein d'autres églises. Et je ne sais pas si vous regardez parfois sur YouTube ou autre, des sites des autres églises, tout ça, et on aurait tendance à se comparer aux autres églises. En général, celles qu'on voit sur Internet et tout, c'est parce qu'elles ont aussi beaucoup de moyens de communication derrière et donc elles arrivent à se faire voir. Et on aurait tendance à se comparer en disant « Waouh, cette église, qu'est-ce qu'elle est puissante. Elle a, t'as vu ce qu'elle a? Ils font ça, ils font ci. Avec ça, ils peuvent participer à la mission, etc. Ah, si seulement on avait ça, nous aussi, alors on remplirait la mission bien mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. » Mais ce ne sont pas des compétences nécessaires pour entrer et participer à la mission de Christ. Ça peut être utile, mais ce n'est pas ce qui doit nous empêcher de participer à la mission de Jésus. Et si l'Église pense être puissante grâce à tout ce qu'elle a, si elle pense être puissante simplement par elle-même, alors elle arrête de dépendre de Jésus-Christ, de la puissance de Dieu, qui lui seul peut ouvrir les portes, et alors finalement, c'est pas une Église fidèle. Dépendre totalement de Jésus, obéir à sa parole et ne pas renier son nom, voilà les trois compétences nécessaires pour entrer et participer à la mission. Il n'y a pas besoin de formation particulière, même si je sais qu'il y en a qui ont fait des formations dernièrement, mais des formations, c'est utile, ça peut nous aider, mais ça ne doit pas être une excuse pour nous dire « Moi, tant que j'ai pas de formation, je vais pas dans la mission, je peux pas annoncer l'évangile. » chaque disciple de Jésus-Christ a les compétences pour la mission. Alors, entrons-y. Maintenant, une fois qu'on y est entré, que se passe-t-il et que doit-on faire ? C'est la deuxième partie. Il faut persévérer dans la mission. Première chose qu'on peut noter, c'est qu'en participant fidèlement à la mission, nous verrons des fruits. Au verset 9, ici, Jésus donne à l'église de Philadelphie des membres de la synagogue de Satan qui se disent juifs mais ne le sont pas. Ils mentent. Il les fera venir se prosterner aux pieds des membres de l'église de Philadelphie et reconnaître que Jésus les a aimés. La fidélité de l'église à dépendre de Jésus pour la mission que Jésus lui a confiée, sa fidélité à obéir à la parole, à ne pas renier le nom de Jésus-Christ, sera récompensée par le salut de certains juifs. Et au passage, quand Jésus dit ça, il n'y a pas d'antisémitisme dans la bouche de Jésus, parce que Jésus lui-même était juif, les disciples étaient juifs, mais il rappelle simplement ce que Paul dit aussi dans sa lettre aux Romains. Paul dit « Ce ne sont pas tous ceux qui descendent d'Abraham qui sont juifs. Ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision. Mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur. Et la vraie circoncision est celle que l'esprit opère dans le cœur et non celle que l'on pratique en obéissance à la lettre de la loi. Tel est le juif qui reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. » Ces personnes que Jésus donne à l'église de Philadelphie, elles sont juives sur le plan du peuple, sur le plan des de la culture, des cérémonies, mais pas sur le plan spirituel. Et ce qui est important, c'est le plan spirituel. Et ici, Jésus leur dit que certains de ces juifs, qui étaient peut-être des adversaires de l'église, des juifs qui étaient hostiles à l'église de Christ, et bien là, Jésus leur dit que grâce à lui, grâce à Jésus, ils vont finir par reconnaître à travers aussi le témoignage de l'Église, que Dieu est réellement dans l'Église et que Jésus a réellement aimé l'Église au point de donner sa vie pour elle. Et donc l'Église va voir des conversions, des vies transformées par l'Évangile de Jésus-Christ. Et on peut se poser la question pour nous-mêmes aussi, de notre côté. Là, on voit que c'est Jésus qui envoie et qui donne à l'Église ces personnes-là. Et nous, quelles sont les personnes que Jésus donne à nos églises en ce moment? Si Jésus a ouvert une porte, la porte, elle se prend dans les deux sens. Nous, on peut sortir pour annoncer, mais elle se prend aussi dans l'autre sens. Des personnes peuvent venir pour entendre. Est-ce qu'il y a des personnes qui entrent dans nos églises? Et est-ce qu'on témoigne fidèlement auprès d'elles de l'évangile de Jésus? Est-ce qu'il est en train de nous donner peut-être des personnes qui étaient hostiles à la foi, qui étaient opposées à la foi, des personnes qu'on ne s'attendait même pas à avoir dans nos églises, parce que là, c'était peut-être des juifs hostiles, mais finalement, ils viennent dans l'église et Dieu les touche. Est-ce qu'il nous donne des personnes, allez, on va dire, qui se disent chrétiennes, mais ne le sont pas? Des chrétiens non pratiquants, des chrétiens de nom. Est-ce que Jésus nous donne des chrétiens comme ça dans nos églises, auxquels aussi on doit témoigner de l'évangile de Jésus-Christ? Une église fidèle qui persévère dans la mission verra des fruits, des vies transformées par l'évangile. Alors persévérons. Persévérons même quand parfois dans la mission ça va être difficile. Il y aura des épreuves. L'église de Philadelphie en a connu. Mais ici au verset 10 on lit qu'elle a gardé le commandement de persévérer que Jésus lui avait donné. On connaît des épreuves dans nos églises. Et certains pourraient être tentés, du coup, dans l'Église, face à ces épreuves, d'abandonner, en fait. Et de dire, si c'est ça l'Église, c'est bon, moi je laisse tout tomber. Alors, encourageons-nous, durant ces moments-là particulièrement, à garder le commandement de persévérer. Notre modèle pour persévérer, c'est Jésus-Christ lui-même. À l'heure de l'épreuve, on peut lire ce qui est écrit dans Hébreux 12, à l'heure de l'épreuve, gardons les yeux fixés sur Jésus. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Voilà l'exemple qui devrait nous motiver à persévérer durant l'épreuve dans la mission. Et Jésus nous promet alors, en retour, de nous garder quand l'heure sera encore plus dure. Je te garderai à mon tour, à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Apocalypse 3, verset 10, là, ce verset-là, c'est un des passages les plus difficiles à comprendre, peut-être, de l'Apocalypse. Disons qu'actuellement, pour nous, aujourd'hui encore, la mission est en cours, la mission d'annoncer l'évangile. Et ici, Jésus dit qu'à la fin de la mission, que la fin de la mission sera particulièrement difficile et va mettre tous les habitants de la terre devant un choix, on va dire, binaire, ultime, adorer le vrai Dieu ou adorer un faux Dieu qui sera apparemment bien visible et qui va singer le véritable Dieu au point de tromper beaucoup de monde. Ça sera une épreuve, on va dire, de phishing, d'hameçonnage. Comme tous les courriers qu'on reçoit et qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des courriers officiels de l'État français, mais qui n'en sont pas. Certains se font prendre, et à l'époque où il y aura le vrai Dieu et puis le faux Dieu, eh ben certains se feront prendre aussi. On ne sait pas quand viendra cette épreuve, mais ce qui nous importe, c'est la promesse que Jésus fait. « À mon tour, je te garderai. » Quand cette épreuve arrivera, Jésus nous gardera. Certains comprennent « je te garderai au travers de l'épreuve » ou « je te garderai hors de l'épreuve ». Peu importe comment on comprend, personnellement, moi j'aime bien l'idée d'être gardé au travers de l'épreuve. C'est-à-dire que l'Église ne sera pas tout à fait épargnée de cette épreuve, mais nous en serons gardés pour sortir indemnes. Ça correspond aussi à ce que Jésus priait en Jean 17, quand il dit, quand il prie à son Père, il dit « Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. » Ou encore, ça correspond aussi aux paroles de l'apôtre Paul. « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. » En fait, on pourrait dire que là, Jésus, notre chef de mission, est en train de dire « La mission va être compliquée, mais je serai là. Je te garderai. Rien ne te mettra à terre. » On aimerait bien que nos patrons terrestres soient là aussi quand la mission commence à être compliquée. Quand il y a des problèmes techniques, quand il y a avec les relations avec le client, c'est compliqué. On aimerait bien que notre chef nous dise « T'inquiète pas, je te garderai, je vais tout faire pour que la mission ne t'abatte pas, etc. » Parfois ou souvent, on est seul en fait pour se débrouiller. Mais dans la mission que Jésus nous confie, au moment de l'épreuve, il est là, il sera là et il nous gardera. Et on pourra alors encore persévérer. Ce qu'on a aussi avec Jésus, ce qu'on n'a pas forcément aussi dans une mission terrestre avec un autre chef, c'est que nous sommes encouragés durant la mission. « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. » Ici, le « Je viens bientôt » de Jésus, il ne sonne pas comme un jugement. Alors que dans les autres lettres que Jésus a écrites, quand il disait « Je viens bientôt », c'est « Je viens comme un voleur et tu vas voir ce qui va arriver si tu ne te repens pas. » Mais là, Jésus dit « Je viens bientôt », ça sonne plutôt comme un encouragement. C'est comme s'il disait « Je viens bientôt t'aider, je viens rapidement. En attendant, tiens ferme, continue, tu vas y arriver. » Des encouragements comme ça, on en aimerait pour persévérer tous les jours dans la mission. Et quand j'étais en mission, moi dans le secteur de l'informatique, ce qui m'aidait à tenir, surtout sur des longues missions de 3 ans par exemple, c'était de savoir que la mission avait une fin et de voir cette fin se rapprocher. Parce qu'une mission qui n'a pas de fin, ça arrive parfois dans la boîte où on était, parfois on avait des missions sans fin. Donc tu ne savais pas quand tu allais sortir, tu ne savais pas comment tu progressais. Et une mission sans fin, bah, c'est long et ce n'est pas motivant du tout. Mais la mission que Christ confie à son Église aura une fin. On ne sait pas non plus quelle date, mais on sait qu'il y aura une fin et on sait qu'elle se rapproche de plus en plus. Et cette fin, c'est un encouragement pour tenir ferme aujourd'hui dans la mission et pour ne laisser personne nous prendre la couronne, la récompense qu'on va avoir une fois qu'on aura fini la mission. Alors persévérons, tenons bon dans la mission de proclamer l'Évangile autour de nous. Et que se passera-t-il une fois que la mission sera terminée? La mission sera terminée soit pour nous, soit quand Jésus reviendra, soit quand nous, on rejoindra Jésus, si nous, on meurt avant que Jésus revienne. Qu'est-ce qui se passera? Première chose, nous serons en sécurité éternellement. Le vainqueur, Jésus fera de lui un pilier dans le temple de Dieu et il n'en sortira plus jamais. Alors ça, pour les personnes de l'église de Philadelphie, ça devait être une promesse merveilleuse. Parce que donc, il y avait beaucoup de tremblements de terre à Philadelphie. Et du coup, beaucoup d'habitants, en fait, vivaient en dehors de la ville, dans la vallée, pour ne pas subir les tremblements de terre. Et ceux qui vivaient dans la ville cherchaient à renforcer les murs de leur, ou cherchaient à renforcer leur maison pour se protéger des répliques sismiques, parce qu'il y en avait beaucoup. Mais tous avaient pris une habitude. Dès qu'il y avait une catastrophe qui arrivait, tout le monde fuyait hors de la ville pour ne pas rester au milieu dans le danger. Et ils vivaient dans l'insécurité constante, en fait. Et on peut ressentir, nous aussi, de l'insécurité dans notre vie de tous les jours, sous différentes formes. Alors là, la promesse que le vainqueur sera un pilier, c'est-à-dire quelque chose de stable, qui représente la permanence, quelque chose de solide, qui ne bouge pas, un pilier dans le temple même de Dieu, et qui n'en sortira pas, il n'y aura pas d'insécurité, il pourra tout le temps rester là, ça c'est une super promesse. Et pour nous aussi, vous vous rendez compte, on sera constamment dans la présence même de Dieu. On ne sortira jamais de cette présence, parce qu'aucun danger n'existera plus pour nous mettre dans l'insécurité. Aucun danger ne nous atteindra. On connaîtra la sécurité éternelle. Ça, c'est merveilleux. Être en sécurité là où est Jésus pour l'éternité. Merveilleux. Et l'autre promesse, c'est que si nous terminons la mission, nous serons éternellement à Jésus. Nous lui appartiendrons éternellement. Nous appartiendrons éternellement à Dieu. C'est ce que signifie Jésus gravera sur le vainqueur le nom de son Dieu. On appartiendra éternellement à Dieu. On appartiendra éternellement au royaume de Dieu. C'est ce que signifie Jésus gravera le nom de la ville de son Dieu, la Nouvelle Jérusalem. On sera citoyen éternel de cette nouvelle ville, de cette Nouvelle Jérusalem. Et on appartiendra éternellement à Jésus. Quand Jésus grave son nom nouveau sur nous, c'est pour dire il imprime, on va dire, en nous son caractère, son identité, et on le connaîtra réellement, pleinement, tel qu'il est. Aujourd'hui, on le connaît encore partiellement, mais un jour, on le connaîtra totalement, pleinement. Et ça aussi, pour l'église de Philadelphie, ça a une résonance particulière, parce que Philadelphie, dans toute son histoire, a changé plusieurs fois de nom. D'abord, donc, Philadelphie, avec ses fondateurs. Philadelphe, c'était le surnom du frère d'un des fondateurs de cette ville. Ça veut dire celui qui est amoureux du frère. C'était deux frères qui s'aimaient beaucoup. Donc, c'est amour fraternel. Donc, Philadelphie, c'était le premier nom de cette ville. Puis ensuite, elle a été nommée Néo-Césarée à cause, en hommage à César Auguste, qui avait financé la reconstruction de la ville après un grand séisme en l'an 17 qui avait tout démoli. Puis ensuite, elle s'est appelée Philadelphie Flavia, en l'honneur de la famille de l'empereur Vespasien. Puis ensuite, elle s'est appelée Décapolis. Puis ensuite, parfois, on l'appelait aussi la Petite Athènes, à cause de la beauté de ses temples. Bref, elle a changé plein de fois de nom. Et quand on change comme ça plein de fois de nom, bah, à la fin, on se dit, mais en fait, je suis qui, moi? C'est qui? C'est quoi mon identité? Je suis qui? Et peut-être qu'on se pose aussi, nous, cette question. Peut-être que vous vous posez cette question. Vous êtes qui? Pourquoi est-ce que je suis là sur terre, etc. Mais un jour, Jésus promet qu'on aura une pleine identité et qu'on trouvera sa pleine identité en lui. Et ça sera définitif. Alors, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus nous dit, à nous aussi, « J'ai ouvert devant toi une porte pour la mission que nul ne peut fermer. » L'église de Christ est une église qui doit être en mission. Elle doit entrer dans cette mission d'annoncer l'évangile. Elle doit persévérer dans cette proclamation de l'évangile. Et elle doit tenir ferme jusqu'à terminer la mission au retour de Jésus-Christ. Et si vous ne faites pas encore partie de l'église de Christ, Jésus dit aussi, « C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. » Et peut-être que vous recherchez quelque chose aujourd'hui ou quelqu'un pour vous sauver de vous-même ou du monde qui vous entoure. Alors moi, je vous dis, venez à Jésus. Vous cherchez peut-être qui vous êtes vraiment, pourquoi est-ce que vous êtes sur terre, Quelle est votre réelle identité? Venez à Jésus. Vous cherchez peut-être la sécurité dans un monde qui est instable. On perd son emploi du jour au lendemain. Et la vie est faite de tremblements de terre personnels qui nous font basculer de tout à rien parfois. Et vous cherchez alors la sécurité. Venez à Jésus. Il est la porte pour trouver tout cela. Et pour l'instant, cette porte est encore grande ouverte. Mais viendra aussi une heure, comme on l'a lu, où cette porte sera fermée et il ne sera plus possible d'entrer et de venir à Jésus. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, toi qui es le Saint, le véritable, toi qui as toute autorité, qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir, je te prie s'il te plaît, ouvre-nous des portes ici à Villefranche pour que ton Église puisse répandre l'Évangile. Nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons pas enfoncer des portes si tu les tiens bien fermées. Alors nous te prions, ouvre-nous des portes et aide-nous à entrer pleinement dans les portes, dans les occasions que tu ouvres pour nous. Aide-nous à ne pas nous appuyer sur nos propres forces, mais à dépendre totalement de toi, pour que ça soit ta puissance qui agisse là où toi tu nous places. Et là où tu nous places, s'il te plaît, aide-nous à mettre en pratique ta parole et à ne pas renier ton nom, à ne pas avoir honte du nom de Jésus-Christ. Et ainsi, donne-nous de voir des personnes touchées par ta grâce, transformées par ton évangile, même parmi les personnes auxquels nous ne nous y attendons pas. Touche des cœurs, ouvre des cœurs, Père, s'il te plaît. Merci aussi, Seigneur, de nous garder lorsque l'annonce de l'Évangile sera dure. Merci de nous aider à tenir ferme pour que nous goûtions ensuite au repos céleste, dans ta demeure, en sécurité pour l'éternité. Garde-nous attentifs à ta voix, à ton esprit, pendant tout le temps où nous serons en mission ici-bas pour toi. Et s'il te plaît, viens bientôt, Seigneur, viens bientôt. Amen.